Vous écoutez, on lit pour vous.
Guerre, paix, perspective en clair-obscur, un texte de Myriam Cloutier, paru au printemps 2024 dans la revue Relations. Au-devant de l'actualité ou relégué dans l'ombre, les guerres semblent se réinventer constamment, nous imposant de réfléchir tant à leur nature qu'aux voies d'émergence de la paix. Guerre et paix se présentent d'ailleurs souvent de manière dichotomique. D'un côté, la paix, en tant qu'absence totale de violence, de l'autre, la guerre, en tant que déchaînement de violences extrêmes. Pourtant, la réalité est plus complexe. La guerre se prépare toujours, ne serait-ce que par ses représentations, et la paix dissimule souvent les effets persistants de la violence guerrière. Comment peut-on, à l'aune notamment des expériences militantes et d'éducation à la paix, creuser le sens de la guerre tout en s'interrogeant sur les conditions d'une paix véritable? Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir? Extrait de « Comme des fleurs d'amandier » ou plus loin de Mahmoud Darwish. Le thème de ce dossier revêt une signification particulière compte tenu de l'actualité des derniers mois, marquée par l'intensité extrême des bombardements de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, en riposte à l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous parviennent les images d'un territoire ravagé par l'application sans limite d'une logique punitive retournée contre toute une population. Des infrastructures civiles essentielles ont été prises pour cible, dont des hôpitaux et des écoles. L'approvisionnement en eau et en électricité a été coupé. Les acheminements d'aide humanitaire bloqués. Et plus de 1,9 million de personnes, soit 85 % de la population, ont été déplacées de force. Jour après jour, le sinistre compte des personnes tuées à Gaza depuis le début des hostilités, majoritairement des femmes et des enfants, ne cesse de grimper. De telles attaques perpétrées à l'aveugle dans des zones densément peuplées, d'où il est impossible de s'échapper, et l'imposition du blocus privant la population des biens essentiels à sa survie, constituent une catastrophe humanitaire. Ce que l'instauration d'un corpus de règles pour régir la conduite de la guerre au sortir de la Seconde Guerre mondiale visait précisément à ne pas voir se répéter. Jamais plus des populations ne devaient être victimes de crimes d'atrocité. Le droit international désigne ainsi les crimes les plus graves, incluant le génocide, les crimes contre l'humanité, et les crimes de guerre. Le miroir terrible que nous renvoie ce qui se déroule en Palestine est celui d'une faillite collective, en premier lieu occidentale, celle des États-Unis et d'autres proches alliés d'Israël, dont le Canada, a condamné sans équivoque les actions du gouvernement Netanyahou contre les populations civiles et a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable. La question palestinienne, après plus de 75 ans d'apartheid, 56 ans d'occupation et 16 ans de blocus, si elle avait été mise de côté, ne peut plus être reléguée au second plan des priorités. Or, ce qui est en jeu dans le contexte de l'après 7 octobre ne concerne pas que le Proche-Orient. Le massacre qui s'y déroule expose les dynamiques clés d'un monde en proie à des conflits où l'expression de la violence est de plus en plus désinhibée, sans limite, et la distinction entre civil et combattant-combattante, ainsi qu'entre biens civils et objectifs militaires brisés. C'est de l'éternel visage de la guerre que la Palestine nous parle, mais aussi de la guerre telle qu'elle se réinvente constamment. S'il y a l'impression d'un basculement, c'est parce que se dessine le spectre de la guerre totale, la mobilisation de toutes les ressources pour anéantir l'ennemi, préfigurant des affrontements toujours plus nombreux et aux proportions plus graves. Le parti de la guerre semble vouloir l'emporter sur les scénarios de paix, l'ombre sur la lumière. Sommes-nous dans ce clair-obscur d'où surgissent les monstres, pour évoquer la formule d'Antonio Gramsci? Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, dans les cahiers de prison. La violence à Gaza survient dans un paysage géopolitique mondial où de nombreuses situations conflictuelles se prolongent sans qu'un horizon de résolution clair se profile. C'est le cas en Ukraine où, 2 ans après l'invasion par la Russie, les positions à l'est et au sud sont gelées. En arrière-plan de l'actualité, d'autres guerres majeures, telles que celles au Soudan et en Syrie, se déroulent, en plus de nombreux autres conflits armés où les souffrances des populations sont aggravées par l'insécurité alimentaire. Au cours des 15 dernières années, le nombre de conflits armés dans le monde, étatiques et intra-étatiques, a doublé. Cela s'accompagne d'une course aux armements et d'une augmentation des dépenses militaires mondiales qui ont atteint 2 240 milliards de dollars en 2022, avec une croissance moyenne de 3% par année, selon les données les plus récentes du Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI. Un entre deux et une incertitude quant à l'évolution de l'ordre international caractérise la situation présente. En effet, diverses périodes d'hégémonie semblent toucher à leur fin, en raison notamment de l'établissement des BRICS. La prétendue supériorité occidentale, son impérialisme moral ayant entraîné, par exemple, les discours sur le droit d'ingérence ou les oxymores de la guerre humanitaire ou démocratique, est remise en question à mesure que la désoccidentalisation des relations internationales évolue. L'arrogance des États-Unis, exemplifiée notamment par leur politique à 2 poids 2 mesures et leur tendance à fermer les yeux sur les crimes de guerre commis par leurs alliés, est fortement contestée aujourd'hui par les pays du Sud global. Une grande partie de ceux-ci affirme leur non-alignement avec les puissances occidentales, comme cela a été le cas au sujet de la guerre en Ukraine, par leur refus de s'associer à l'application de sanctions contre Moscou. À partir de ces nouvelles configurations géopolitiques, marquées par le divorce entre la Chine, la Russie et l'Occident, il est difficile d'envisager quel consensus pourrait se dégager des négociations pour la paix dans les conflits actuels, du fait de la coexistence de différentes visions et intérêts. Les divergences de vues des pays émergents avec l'Occident se confirment au regard de certaines de leurs initiatives, comme l'action récente de l'Afrique du Sud, qui a saisi la Cour internationale de justice contre Israël, l'accusant d'avoir violé la Convention sur le génocide en commettant des actes de génocide contre les Palestiniens, Palestiniennes à Gaza. Si la guerre peut sembler être une réalité lointaine pour ceux et celles qui ne la vivent pas directement et n'en sont pas les victimes, Aucune population du monde n'est en dehors de celle-ci. Les violences, à divers degrés et de différentes manières, sévissent partout, s'imbriquent et s'inscrivent à l'échelle locale comme mondiale. Qu'en conclure? Que rien ne peut changer? En envisageant la guerre comme un continuum de violence, plutôt que, selon sa conception courante, voulant qu'elle ait un début précis et une fin clairement circonscrite, on parvient à retracer les effets de la violence et à comprendre comment ils persistent et s'articulent à l'échelle interne et micro. Cette façon d'appréhender un conflit facilite l'analyse multifactorielle de son déclenchement et de sa poursuite sous différentes formes et éclaire ses voies de résolution. Dans cette perspective, la compréhension de la guerre ne se limite pas à l'utilisation de la violence armée lors d'un moment de crise, mais englobe un mélange complexe de temporalité. Des éléments de guerre couvent, même sous les apparences de la paix, tels que les discours qui préparent la guerre en tentant de la légitimer pour rendre acceptables les destructions à venir aux yeux de l'opinion publique. D'autre part, il existe des possibilités de paix au sein de tout conflit. Celles-ci peuvent prendre la forme de solidarité qui se tisse à l'échelle locale et qui participe à la sécurité humaine. Pour dépasser la définition étroite de la guerre, il faut aussi considérer l'enchevêtrement des formes de violence systémique qui vont au-delà des opérations armées et de leurs effets directs. Ce sont les violences inscrites dans l'ordre social et économique, dont le capitalisme est un exemple, du fait de ses modes d'appropriation, de destruction et d'exploitation du vivant. Elles peuvent aussi relever de structures symboliques durables, comme le patriarcat. On peut penser à nombre d'exemples de violences et de guerres non déclarées et invisibilisées, comme celles menées envers les migrants-migrantes, qui entretiennent le laisser-mourir de personnes dominées économiquement, socialement et politiquement. Ainsi, il est indispensable de s'interroger sur les frontières de la guerre, car notre manière de penser la paix en découle. À cet égard, une conception positive de la paix, attribuable à certaines conditions de justice sociale, mais aussi aux attitudes et aux pratiques de la non-violence, nous permet de la penser au-delà de la sphère diplomatique. La paix peut ainsi être perçue comme la responsabilité de chacun, chacune, s'articulant dans ses rapports quotidiens et dépendant de sa volonté à s'engager dans la lutte contre les sources les plus profondes de la domination et de l'oppression. Quel sens aurait une paix sans justice et une justice sans paix? En raison peut-être de notre propension, souvent nourrie par les médias, à banaliser l'idée de la guerre, nous manquons actuellement de la capacité à concevoir une véritable culture de la paix. Cette situation entretient un certain sentiment d'impuissance au sein de la population, allant jusqu'à remettre en question l'efficacité des actions anti-guerre. Pourtant, en réveillant notre imaginaire de la paix, nous pourrions œuvrer à valoriser des solutions pour une paix juste et durable, capable de se réverbérer partout. C'était « Guerre-paix, perspective en clair-obscur », un texte de Myriam Cloutier, paru au printemps 2024 dans la revue Relations.
Des TikTokers invitent à déconsommer. Un texte de Manon Jacob et Nathalie Wade de l'agence France Presse, paru le 18 août 2024 dans la presse. La coupe est pleine. Sur les réseaux sociaux, de jeunes adultes s'opposent à la surenchère consumériste aux publicités déguisées et à la pratique consistant à présenter ses achats, dite « haul », appelant à se défaire du superflu. Raccommodage, recyclage, frugalité et minimalisme, l'Under-Consumption Core a la cote sur TikTok. Ces publications encouragent un retour vers des plaisirs et savoir-faire simples, en contraste flagrant avec le type de contenu habituellement populaire sur la plateforme. Elles font la promotion d'un mode de vie de consommation modérée. Au lieu d'avoir 15 produits de beauté ou 50 paires de chaussures, n'en avoir que 3, explique la Française Anissa Éprinchard, analyste des comportements numériques. À l'heure où tout est devenu objet de consommation, aussi bien le discours politique que le skincare, soin de la peau, cette tendance signale un ras-le-bol de consumérisme de contenu, estime-t-elle. Cara Pérez, l'influenceuse américaine spécialisée dans les questions financières et éco-responsables, nous le dit. Quand on essaye constamment de vous vendre quelque chose et que les prix ne font qu'augmenter, vous finissez par faire un burn-out financier. J'utilise des éléments de la nature pour décorer mon appartement. La majorité de mes vêtements sont de seconde main. Je réutilise mes contenants de sauce pour stocker de la nourriture. C'est gratuit et très pratique, explique par exemple une internaute dans une vidéo publiée en juillet sur Instagram. L'une après l'autre, des vidéos mettent en avant un vieux meuble hérité de grands-parents, des vêtements rapiécés, une gourde isotherme cabossée ou des produits d'hygiène faits maison. Routine irréaliste. Pour Mme Éprinchard, cette tendance vient d'une fatigue face aux routines irréalistes ou aux hauls indécents. Cette lassitude est encore plus marquée aux États-Unis, où les jeunes adultes souffrent de la flambée des prix depuis la pandémie de COVID-19. Le consommateur se sent aliéné dans un contexte géopolitique et économique instable, explique Tariro Maconi, spécialisé dans l'analyse des mouvements de consommation et de société. Sur Google, les recherches associées à la sous-consommation ont presque doublé cet été aux États-Unis, parallèlement à celles associées à la surproduction et à la Grande Dépression. Selon les experts avec lesquels l'AFP s'est entretenue, les jeunes générations sont en train de réaliser qu'elles ne peuvent maintenir le rythme face à l'abondance de produits plébiscités sur les réseaux. Dans une quête d'identité, beaucoup de jeunes consomment de manière compulsive. Une mode jetable et remplaçable, explique à l'AFP la créatrice de contenu britannique Andrea Cheong, auteure d'un livre sur la mode durable. Sur son compte Instagram, elle montre à ses abonnés comment raccommoder jusqu'aux pièces les plus insolites de sa garde-robe, comme de la lingerie, et transforme une robe de mariée dépareillée en débardeur. Simple et durable. L'Under Consumption Core veut rendre l'imparfait esthétique et s'inscrit dans une recherche d'intemporalité qui contraste avec les tendances Instagram et TikTok l'ayant précédé. J'aimerais qu'il ne s'agisse pas que d'une tendance, souligne cependant Mme Chong, car pour certains, c'est un mode de vie. Les experts interrogés notent un appétit grandissant pour l'authenticité de contenu, s'éloignant de la culture classique des influenceurs qui pousse à l'hyperconsommation. Recycler et conserver est devenu cool, estime Mme Maconi. Un mouvement similaire s'était créé après la crise financière de 2008, note-t-elle. De plus en plus de jeunes ont développé une conscience écologique, mais le principal moteur derrière cette tendance reste le pouvoir d'achat, assure Andrea Chong, qui y voit quand même un changement positif pour la planète. Si la mode éthique et durable est par exemple un sujet extrêmement complexe et difficile à résumer dans des vidéos d'une minute sur Instagram, juge-t-elle, L'Under Consumption Core, en faisant passer un message simple invitant à moins consommer, permet de populariser une approche durable, éco-responsable et accessible à tous. Cet esprit de sous-consommation souffle aussi en dehors des réseaux sociaux. À Washington, Anjali Zielinski, 42 ans, et sa fille Mina, 7 ans, ont récemment participé à un atelier de raccommodage. Madame Zielinski espère ainsi entretenir la créativité débordante de sa fille, mais aussi lui rappeler la valeur des choses et du travail nécessaire pour les produire dans un monde qu'elle juge de plus en plus déconnecté de ses réalités. C'était « Des TikTokers invitent à déconsommer », un texte de Manon Jacob et Nathalie Wade de l'agence France Presse, paru le 18 août 2024 dans La Presse.
D'autres Ninchiris en voie d'être détruits, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. À Trois-Rivières, le violent incendie qui a détruit, début octobre 2024, l'église de Notre-Dame des Sept Allégresses a emporté des œuvres de l'artiste italo-canadien Guido Ninchiri, 1885-1973. Cet infatigable décorateur d'église avait rehaussé de sa griffe l'intérieur de celle-ci en 1925-1926. Il n'y a pas que le feu qui menace le travail de cet artiste à qui quantité d'édifices religieux d'Amérique du Nord doivent beaucoup. Les œuvres de Ninchiri, qu'abrite l'église Saint-Pierre à Shawinigan, toujours en Mauricie, se trouvent dans un état épouvantable, affirme Paul Labonne, spécialiste de l'œuvre de Ninchiri et directeur du musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est catastrophique. Des morceaux du décor du plafond tombent. C'est pourtant une des églises importantes auxquelles Ninchiri a travaillé. C'est un des cas les plus tristes, indique Paul Labonne. Il a noté, sur une des œuvres, un important effritement de la couche picturale. Cette imposante église de Shawinigan a été cédée en 2019 avec ses œuvres d'art à un homme d'affaires qui affirmait vouloir en faire un musée. À Montréal, les immenses fresques peintes par Ninchiri sur les voûtes de l'église Saint-Michael et Saint-Anthony, un bâtiment majeur réalisé par l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne, ont aussi de quoi inquiéter. Avant la construction de l'oratoire Saint-Joseph, son dôme était le plus imposant de Montréal. Les décorations qui la couvrent sont aujourd'hui rongées par l'humidité et le temps. Pour la secrétaire de cette paroisse, bien des églises ont des travaux importants à faire, mais rien chez nous n'est en cours pour préserver le décor. Il s'agit de toiles marouflées collées sur la voûte de l'édifice qui se dégrade à vue d'œil. Jocelyn Groux, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec, indique au Devoir que les principaux travaux à réaliser concernent d'abord l'extérieur du bâtiment. Le carnet de santé de l'édifice indique qu'il faut refaire la maçonnerie. Les fresques ne sont pas comme telles en danger, à ce que je comprends. L'imposant bâtiment qui abrite une paroisse polonaise était à l'origine conçu pour accueillir des catholiques irlandais. Ancien directeur de l'information, notamment au Devoir, le journaliste Jules Richer, aujourd'hui à la retraite, s'est transformé en guide touristique agréé. Il offre des visites guidées de Montréal en ayant fait de l'œuvre de Ninchiri un de ses centres d'intérêt. L'église Saint-Michael and Saint-Anthony fait partie de ses centres d'intérêt touristique. Les fresques de Ninchiri y ont été apposées sur toile marouflée, moins chère que la technique sur plâtre. Leur état est horrible. Non seulement elles sont sales, mais elles tombent en lambeaux, témoigne-t-il. Depuis le sol, il est loisible aux visiteurs de constater les pertes nombreuses et les dégradations de l'ensemble du dôme. l'emblème d'un quartier. On présente souvent Ninchiri comme le Michel-Ange canadien, indique l'historien de l'architecture et professeur de l'UQAM, Luc Noppen. Cette référence à Michel-Ange ne tient pas la route, mais Ninchiri a tout de même réalisé des choses importantes et plus personnelles à travers sa production en atelier. L'artiste demeure méconnu du grand public. Ce n'est pas un artiste pour lequel il est facile de mobiliser, même s'il a fait des choses de sa main qui méritent l'attention, souligne Luc Noppen. Pour Luc Noppen, l'église Sainte Michael and Saint Anthony mérite la considération du public. J'ai toujours prétendu que c'est un bâtiment superbe. Si la cathédrale d'Amos, dessinée par le même architecte, est importante, cette église-là l'est aussi. Tout ce qu'a fait Beaugrand-Champagne est original. Tant qu'à sauver l'église, on pourrait bien sauver les fresques aussi. Devant Saint Michael and Saint Anthony, un des édifices les plus imposants du quartier Mile End à Montréal, plusieurs s'imaginent se trouver en présence d'une mosquée. Beaugrand-Champagne n'a pas fait deux bâtiments pareils. Il joue avec le retour des styles historiques, commente Luc Noppen. Dans ce cas, il envisage les débuts de la chrétienté, alors que l'architecture mauresque influence beaucoup la construction des bâtiments religieux. Un immigrant marquant. Entre 1920 et 1960, Guido Ninchiri a décoré, aux États-Unis comme au Canada, plus d'une centaine de lieux de culte. Diplômé de l'Académie des beaux-arts de Florence, cet immigrant italien s'installe à Montréal presque par accident. À l'occasion d'un voyage qui devait le conduire en compagnie de son épouse en Amérique du Sud, l'artiste reste pris aux États-Unis alors qu'une pluie de feu et de fer ravage l'Europe. Il devait se rendre en Argentine, mais le conflit en décide autrement. Après un temps passé aux États-Unis, incapable de poursuivre son voyage vers le sud, il va faire route vers le nord. Il se fixe à Montréal. À partir de son atelier, il imagine des plans de décoration pour des établissements. Il peint des fresques par centaines. Il produit aussi, comme maître verrier, des vitraux par milliers. Son atelier, planté dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, va employer jusqu'à 10 ouvriers. C'était « D'autres Ninchiri en voie d'être détruits », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir.